Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Deux personnes ont été tuées et trois blessées jeudi dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger, dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. Selon des sources sécuritaires et locales, deux véhicules de transport en commun ont été interceptés hier matin sur l'axe Markoy-Tokabangou dans la région du Sahel. Les véhicules, dont l'un a été incendié par les assaillants, avaient quitté Markoy pour le marché de Dolbel, un village situé à 25 kilomètres sur le territoire nigérien, a expliqué un habitant joint par téléphone. Au moins une personne a été tuée par balle et plusieurs blessés jeudi au Bénin lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants protestant contre, je cite, l'absence de l'opposition à la présidentielle de dimanche. Nous y reviendrons plus en détail en seconde partie de cette édition. Human Rights Watch a accusé jeudi les forces de sécurité tchadiennes d'avoir mené une répression implacable contre des opposants à l'approche de la présidentielle du 11 avril que le président sortant Idriss Déby Itno, 30 ans au pouvoir, devrait remporter. Ce sera en seconde partie de cette édition. C'est ce vendredi que les Djiboutiens, eux, élisent leur président. Les bureaux de vote ont déjà ouvert. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, depuis 22 ans à la tête de ce petit pays stratégique de la Corne de l'Afrique, se présente pour un cinquième et théoriquement dernier mandat, pour des raisons de limite d'âge. Dans l'est de la RDC, plus de 6000 personnes ont été tuées dans les violences dans la région de Beni depuis 2013 et plus de 2000 dans la province voisine de l'Ituri en 2020, a alerté jeudi l'épiscopat congolais. Rosine Munirezoro fera le point dans quelques instants. Le guide suprême par intérim de la confrérie des frères musulmans, Mahmoud Ezzat, a été condamné jeudi à la perpétuité par la Cour pénale du Caire pour incitation au meurtre et pour avoir fourni des armes à des manifestants devant le siège de la confrérie en 2013, a-t-on appris de sources judiciaires. L'Afrique demeure en marge dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Avec seulement 2% des vaccins administrés dans le monde, a déploré jeudi la directrice pour l'Afrique de l'OMS. Ce continent est cependant moins touché par la pandémie, avec 4,3 millions de cas, dont 114 000 morts sur une population de 1,2 milliard d'habitants, selon le dernier décompte de l'OMS Afrique. Ici aux États-Unis, une personne est morte jeudi et plusieurs autres blessées, dont quatre grièvement, dans une fusillade dans un magasin d'ameublement au Texas. L'auteur présumé des tirs a été arrêté et il s'agit d'un employé du magasin. Ses motivations restent pour l'instant inconnues. Quelques heures auparavant, le président Joe Biden avait dévoilé des mesures ciblées contre l'épidémie de la violence des armes à feu aux États-Unis. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. La mort de George Floyd est due à un faible niveau d'oxygène après une combinaison d'actions des policiers qui l'ont plaqué au sol pendant près de 10 minutes, a affirmé jeudi un expert au procès de l'agent blanc Derek Chauvin, abordant la question centrale des causes du décès de l'Africain-Américain. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se rendra à partir de samedi en Israël, en Allemagne, au siège de l'OTAN en Belgique et en Grande-Bretagne, pour échanger avec des dirigeants gouvernementaux et militaires, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Deux cosmonautes russes et un astronaute américain doivent s'envoler vendredi pour la Station spatiale internationale lors d'une mission honorant le 60e anniversaire de l'envoi du premier homme dans l'espace, le légendaire cosmonaute soviétique Yuri Gagarin. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. La suite de nos informations. En République centrafricaine, la tension monte au sein de la classe politique au lendemain de l'investiture du président Touadéra pour un nouveau quinquennat. 4 députés, dont le chef de l'opposition, sont visés par une poursuite judiciaire. Le gouvernement a adressé hier à l'Assemblée nationale un courrier de demande de levée de leur immunité parlementaire. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
En plus du chef de l'opposition, Anissé Georges Doleguilé, l'ancien président du Parlement, Abdou Karim Mekassoua, le président du MLPC, Martin Ziguélé, et le député de l'opposition, Aurélien Simplice Zinga, sont aussi visés par cette poursuite judiciaire. Selon la lettre du ministre intérimaire de la Justice adressée au président de l'Assemblée nationale, les 4 députés doivent être auditionnés dans le cadre d'une poursuite judiciaire engagée contre l'ancien président François Bozizé, Thierry Savonarole Mali, un de ses proches et plusieurs autres personnes. Le juge d'instruction chargé de la procédure a formulé une demande de levée d'immunité parlementaire des honorables députés suscités sur lesquels pèsent des présomptions de culpabilité pour les besoins de la procédure, mentionne la lettre du gouvernement. L'on ignore au stade actuel les faits qui sont reprochés à ces 4 députés. Fin mars dernier, le chef de file de l'opposition, Anissé Georges Doleguilé, a été empêché de prendre son vol à l'aéroport de Bangui. Motif, l'homme ferait l'objet d'une procédure judiciaire. 48 heures plus tard, ce fut le tour de Martin Ziguélé, ancien soutien du président Touadéra. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Violence dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épiscopat congolais fait état de plus de 6000 personnes tuées dans la région de Beni depuis 2013 et plus de 2000 dans la province voisine de l'Ituri. Le point avec Rosine Munezero.
Dans les régions de Beni, dans la province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri voisine, on compte également au moins 3 millions de déplacés et environ 7500 personnes kidnappées, a déclaré l'abbé Donatien Tcholé, porte-parole des évêques catholiques de la RDC. Il présentait un message des prélats congolais qui ont dénoncé l'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse. Selon M. Tcholé, des civils enlevés par le groupe armé ougandais des forces démocratiques alliées ADF ont affirmé avoir été contraints à adhérer à l'islam. Les évêques ont aussi dénoncé l'incendie des villages, la destruction et fermeture des écoles et centres de santé, la mise à sac des bâtiments administratifs, les pillages des bêtes et des cultures dans cette région orientale de la RDC. Depuis lundi, les populations protestent contre les massacres perpétrés par les ADF, des manifestations violemment dispersées par la police selon le mouvement Lutte pour le changement, Lucha, à l'origine de protestations.
Washington exhorte les grandes économies à poursuivre leurs efforts financiers pour assurer une croissance mondiale solide. Lors d'une réunion du Comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international, le CMFI, l'administration Biden a signalé sa volonté d'être au cœur de l'aide internationale. Le point avec Eddie Isango.
C'est Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, qui l'a déclaré au CMFI. Le travail n'est pas terminé, a-t-elle expliqué, exhortant les grandes économies à ne pas retirer leur soutien trop tôt et à s'efforcer de fournir des nouvelles aides budgétaires importantes pour garantir une reprise robuste. Le FMI a dévoilé cette semaine, à l'occasion de ses réunions de printemps, des perspectives économiques plus optimistes pour 2021 et 2022 grâce à la solide reprise économique aux États-Unis. La première économie du monde a en effet adopté fin mars un nouveau plan de soutien de 1900 milliards de dollars. L'administration de Biden compte aussi faire adopter par les congrès dans les mois à venir un vaste plan d'investissement de plus de 2 milliards de dollars américains sur 8 ans. Mais la reprise est inégale dans le monde avec des pays émergents à la traîne, de même que les économies d'Amérique latine. En Europe aussi, la reprise est difficile alors que la campagne de vaccination a pris du retard, obligeant des pays comme la France à prendre de nouvelles mesures de confinement ou à maintenir de nombreuses restrictions d'activité. La priorité numéro un est de mettre fin à la crise sanitaire, condition préalable à une reprise économique robuste, a soutenu Janet Yellen.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Les autorités de la République démocratique du Congo ont annulé un marché d'achat de 50 wagons accordés irrégulièrement à une entreprise d'importation de produits alimentaires. A-t-on appris hier, les wagons étaient destinés à la ligne reliant Kinshasa à Matadi, unique voie d'accès de la RDC à l'océan Atlantique. Le 31 mars, l'Association congolaise pour l'accès à la justice avait saisi l'Inspection générale des finances pour dénoncer un contrat conclu en violation flagrante de la procédure de passation de marché public, selon eux. Fin de la campagne de vaccination au Niger pour 3,5 millions de têtes de bétail. Cette campagne a été initiée par le gouvernement avec l'appui du CICR dans 29 communes des régions de Difa, Tawa et Tillabéri, zones confrontées à de nombreux aléas climatiques qui impactent les ressources. Selon le CICR, ces vaccinations protègent les animaux contre des maladies contagieuses comme la peste. Pour les éleveurs, préserver leurs animaux est une question de survie. Au Cameroun, Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité, a installé près de 100 000 compteurs prépayés, selon le magazine Investir au Cameroun. L'un des principaux griefs faits à la société de distribution de l'électricité par ses clients est que l'électricité est souvent suspendue alors qu'une facture n'a pas été envoyée. La surfacturation est également un autre problème récurrent. L'installation des compteurs prépayés devrait régler ces problèmes, selon Eneo.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Sixième et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions CAF sur le continent aujourd'hui. L'AS Vita Club reçoit El Merrek du Soudan. Les deux clubs sont déjà éliminés. Mais Florent Ibengue et ses poulains voudraient au moins terminer cette phase sur une victoire. Situation identique pour le tout-puissant Mazembe qui reçoit Al Hilal du Soudan. À suivre aussi Mamelodi Sundowns, CR Belouizdad d'Algérie et Al Ahly d'Égypte face à Simba de la Tanzanie. Athlétisme, le Kenya a lancé hier un programme de vaccination de ses équipes engagées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. C'est ce qu'a annoncé le Comité national olympique kenyan. Les 75 sportifs présents dans la bulle d'entraînement installée au stade Kasarani de la capitale ont été les premiers à recevoir le vaccin. Au total, 3500 sportifs, entraîneurs et dirigeants sont concernés par cette campagne de vaccination. Le Comité international olympique n'a pas imposé une vaccination des participants aux Jeux, mais l'encourage vivement. Le Kenya, superpuissance de l'athlétisme mondial, espère emmener une délégation d'une centaine de sportifs aux JO de Tokyo, reprogrammée du 23 juillet au 8 août 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Parlant justement des JO, ici aux États-Unis, Alison Félix, septuple championne olympique et la plus titrée de l'histoire de l'athlétisme féminin, a dit qu'elle disputerait à Tokyo cet été ses derniers Jeux olympiques, même si elle n'a pas encore décidé d'arrêter sa carrière. Au Japon, l'athlète de 35 ans disputera ses cinquièmes JO. Au total, elle a cumulé 9 podiums olympiques, dont 6 sacres. Elle a par ailleurs glané 13 titres de championne du monde. Alors qu'elle se concentrait dernièrement sur le 400 mètres, elle compte participer aux 400 mètres et aux 200 mètres aux sélections olympiques des États-Unis en Oregon en juin prochain. En football, la star américaine du football féminin, Megan Rapinoe, estime que le report des Jeux Olympiques en raison de la pandémie de COVID-19 pourrait donner un coup de pouce à sa sélection qui visera un doublé historique à Tokyo cet été. Le côté malgré tout positif du COVID et de la pandémie, c'est que cela a permis d'avoir une année de repos. Certaines ont joué à l'étranger, d'autres ont pris plus de temps pour elles, du temps que nous n'avons jamais vraiment pour remettre nos corps en état, affirme la joueuse du club où elle règne. Les Américaines ont pour objectif de devenir la première équipe à enchaîner un triomphe en Coupe du Monde avec une médaille d'or olympique alors qu'elles se préparent pour les Jeux qui auront lieu, je le rappelle, du 23 juillet au 8 août prochain au Japon.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, l'organisation Human Rights Watch dénonce la répression préélectorale contre les opposants à l'approche de la présidentielle du 11 avril. Selon l'ONG, les autorités doivent mettre fin aux mauvais traitements et au passage à tabac et respecter le droit de réunion et enquêter sur les abus. Claire Morin-Gibourg a joint la directrice adjointe pour l'Afrique de Human Rights Watch, Aïda Soya.
Nombreux Tchadiennes descendent courageusement dans la rue, pacifiquement, pour réclamer le changement et le respect de leurs droits fondamentaux. Et nous avons documenté comment les forces de sécurité ont répondu suivant avec une répression brutale et violente, écrasant la dissidence et, selon notre recherche, l'effet d'éradiquer l'espoir d'une élection équitable ou crédible. Et pour disperser les manifestants, la police avait utilisé souvent le gaz lacrymogène et parfois ils ont tiré des grenades directement sur des manifestants qui ont entraîné des blessures graves.
Selon vos recherches, il y aurait au moins 112 membres ou sympathisants de partis d'opposition qui auraient été arrêtés?
Oui, nous avons documenté qu'au moins 112 personnes, des manifestants, ont été arrêtées arbitrairement et plusieurs d'entre eux ont été battus, rués des coups, soit lors de leur arrestation et souvent en détention. Plusieurs ont décrit, donc, ils ont subi des mauvais traitements. Il y avait même un manifestant qui a décrit comme il a été soumis à des charges électriques avec des câbles à trois reprises pendant sa détention par des agents de renseignement.
Que vous a répondu le ministre tchadien de la Justice que vous avez interrogé, Djimet Arabi?
Oui, nous avons parlé avec le ministre de la Justice. Selon lui, il a dit que les forces de sécurité avaient agi avec professionnalisme et il a dit que les forces de sécurité avaient la responsabilité de mettre fin aux manifestations parce que les manifestations ont été interdites. Et il a aussi dit que parfois, les manifestants ont engendré de la violence et des désordres publics avec des manifestants brûlant des pneus sur diverses routes. Plusieurs manifestants nous ont dit que leurs manifestations ont été interdites, ont utilisé la raison de la pandémie du COVID-19, mais en même temps, le président Déby a continué avec sa campagne électorale, avec des grandes foules qui n'ont pas été interdites.
Qu'est-ce que vous demandez aux autorités tchadiennes?
Donc, nous avons appelé les autorités à respecter les libertés d'expression et de réunion et veiller à ce que la police fasse preuve de retenue lors des manifestations. Et aussi, nous avons appelé aux autorités d'enquêter d'urgence sur l'agression mortelle contre la famille d'un dirigeant de l'opposition et sur d'autres allégations d'abus. Et Tchad aussi reçoit un soutien important de la part de la communauté internationale. C'est un acteur clé dans la lutte contre les groupes armés islamistes au Sahel et dans la région du bassin du lac Tchad. Et nous avons appelé ses partenaires qui soutiennent le gouvernement de Tchad de ne pas fermer les yeux sur les abus qui ont été commis contre la population tchadienne lors de ces manifestations, mais plutôt faire pression sur le gouvernement pour qu'il respecte la liberté de réunion, qu'il encadre les forces de sécurité et qu'il veille à ce que les responsables d'abus aient à rendre des comptes.
Aïda Soya, directrice adjointe pour l'Afrique de Human Rights Watch.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, au moins une personne a été tuée ce jeudi et 6 autres blessées lors d'une intervention de l'armée qui a fait usage de gaz lacrymogène dans le centre du pays. L'intervention visait à disperser des manifestants protestant contre ce qu'ils ont appelé l'absence d'opposants à la présidentielle de dimanche. Le nord et le centre du Bénin ont été secoués par plusieurs manifestations cette semaine. Pour une réaction, John Lyndon a joint à Cotonou le professeur Roger Gbenyombi, un ancien ministre proche du pouvoir.
Un mort et des blessés, c'est infiniment regrettable et c'est un mort et des blessés de trop. Maintenant, on parle de confiscation des pouvoirs par Patrice Talon. Non, de mon point de vue, il n'y a pas confiscation des pouvoirs parce que toutes les décisions qui sont en train d'être appliquées, y compris ce que les gens appellent la prolongation illégale de son mandat, toutes les décisions ont été actées par le Parlement et par la Cour constitutionnelle. Or, nous sommes dans un état de droit. Une fois que le Parlement et la Cour constitutionnelle ont dit que c'est le droit,
Nous devons avancer dans le droit en attendant de changer le droit si nous ne sommes pas d'accord avec.
Alors, plusieurs manifestants dénoncent l'absence d'une réelle opposition au scrutin présidentiel de dimanche. Est-ce que c'est le cas et comment en est-on arrivé là?
Écoutez, chers amis, c'est de leur droit de manifester et de dénoncer ce qu'ils appellent l'absence d'une véritable opposition. Moi aussi, bien que du côté de Patrice Talon, mais ce n'est pas de la faute de Patrice Talon, si l'opposition n'est pas structurée, et si l'opposition n'a pas de leader, et si l'opposition n'a pas un projet de société différent de celui de Talon à nous proposer.
Patrice Talon avait dit lors de son premier mandat qu'il prendrait les rênes du pays pour un seul mandat. En cours de route, il a changé d'avis. Pourquoi?
Non, cher ami, il n'a pas changé d'avis. C'est nous qui lui avons dit, et je fais partie de ceux qui lui ont dit, non, monsieur le candidat ou monsieur le président devenu, notre constitution est très belle comme elle est. Nous voulons deux mandats de 5 ans. À partir de ce moment, il était bien obligé d'accepter que nous ayons une constitution à 2 mandats possibles.
En fin de compte, c'est le peuple béninois qui décidera donc de qui sera le prochain président. Est-ce que la transparence est de mise lors de ce scrutin de dimanche?
Ce scrutin présidentiel sera transparent, mon cher ami, et sera transparent, hélas, je connais un peu l'histoire, transparent à la manière soviétique. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis des lustres, s'achève un mandat qui a des résultats à offrir, qui a des résultats à montrer, qui a des résultats palpables. Et le peuple, qui est analphabète, mais qui n'est pas bête, voit ces résultats. Et la peur que j'ai, moi personnellement, je vous la confie cette peur, c'est que le 11 avril prochain au soir, nous ayons score à la soviétique. Je dis 80%. J'ai des gens qui disent non, M. Guyonvi, nous voulons 98%. Et ce n'est pas impossible parce que les deux autres candidats, personnellement, je ne les vois pas. Ils n'existent pas sur le terrain et c'est quelque part dommage pour notre belle démocratie béninoise.
Le professeur et ancien ministre béninois Roger Guyonvi joint à Cotonou. Au Niger, le journaliste Moussa Aksar comparaît ce vendredi devant le juge du tribunal communal 3 de Niamey. Notre confrère est poursuivi pour diffamation dans le cadre d'une enquête sur la gestion des ressources financières au ministère de la Défense nationale du Niger. Le procès du directeur de publication du journal L'Événement et par ailleurs président de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest avait déjà été reporté en janvier. Bagasukura a joint à Niamey Boudal Efred Mouloul, l'avocat du journaliste Moussa Aksar.
A publié, non pas en tant que journal événement au niveau national, mais en tant que directeur de la cellule Norbert Zongo, une cellule reconnue pour sa rigueur et son professionnalisme. Donc, vraiment, c'est une fausse querelle qui a engagé à M. Moussa Aksar. Et bon, après, la justice le dira.
Vous parlez d'un réseau sous-régional de journalistes d'investigation qui aurait publié donc un dossier. Et pourquoi est-ce que ce réseau n'est pas poursuivi, mais c'est seulement votre client, Moussa Aksar?
Voilà, c'est vraiment la question que je ne veux pas devancer la procédure, je préfère respecter la procédure. Mais c'est effectivement la question que tout le monde est en droit de se poser, surtout en droit. Je dis bien en droit, c'est la question que tout professionnel de droit doit se poser. Et que, voilà pourquoi une telle procédure hybride. Voilà, là, on ne peut pas savoir, peut-être que je ne suis pas bien placé pour vous répondre. Pour le moment, je n'accuse personne, mais je sais quand même que c'est une procédure à subterfuge. Il y a des objectifs que, pour le moment, nous ne pouvons pas comprendre. Mais si la justice fait son travail, Moussa Aksar a un moral haut, il sait qu'il doit continuer son travail, puisqu'il l'est très bien. Et là, il a valu quand même un certain nombre de distinctions, même au niveau international. Il appartient, il fait partie de l'art. Réseau, la cellule Norbert Zongo, reconnue au niveau international pour sa rigueur et au-delà, avec d'autres partenariats, avec d'autres réseaux internationaux, d'autres aux États-Unis. Donc je ne vois pas en tout cas quel intérêt il avait à cibler une personne en particulier qui disait qu'il n'était même pas connu des Nigériens pour les diffamer. Donc voilà, nous préférons faire confiance à la justice et voir ce qu'elle va décider.
Et quelles sont vos attentes ce matin au procès?
Bon, le dossier soit retenu, jugé et que la justice soit dite. Et nous, tant que c'est le droit qui sera dit, nous n'avons pas de crainte pour cette procédure, nous sommes sereins. Tant que c'est le droit en crainte qui doit être dit. Donc voilà, nous n'allons pas plaider le dossier tout de suite ici et maintenant, mais rassurez-vous, nous sommes sereins, nous sommes serrés sereins. Le moral est bon, nous, jusqu'à preuve du contraire, nous continuons à faire confiance à la justice et nous estimons que le droit sera dit et voilà, vous serez informés de la teneur.
Joint à Niamey, Boudal Efred Mouloul, l'avocat du journaliste Moussa Aksa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le président Joe Biden a appelé ici aux États-Unis à l'interdiction des fusils d'assaut pour les particuliers en dévoilant son plan limité pour lutter contre ce qu'il appelle une épidémie de la violence par arme à feu. Joe Biden a assuré qu'aucune de ces mesures n'empiétait sur le second amendement de la Constitution qui garantit le droit au port d'armes. Parmi ces mesures, une nouvelle règle visant à arrêter la prolifération des armes dites fantômes, qui sont fabriquées de manière artisanale et qui n'ont pas de numéro de série. Pour une analyse, Abdulrahman Dia, joint ici à Washington, l'analyste politique René Lake.
Le rapport de force politique n'a pas beaucoup changé ces dernières années, en tout cas sur cette question des armes à feu ici aux États-Unis. Le rapport de force, c'est quoi? Il est toujours le même. Les démocrates sont favorables à une régulation et un contrôle plus serré de la vente, de l'utilisation et de la mise à disponibilité des armes à feu. Les républicains le sont beaucoup moins. Ils sont soutenus en cela par la NRA, qui est l'association de lobbying des armes à feu, qui est extrêmement puissante dans ce pays. Bien que, et c'est peut-être ça la nouvelle donnée, la NRA est en difficulté en ce moment. Elle a de très, très grosses difficultés financières et elle semble avoir perdu un peu de son aura, mais pas au point de faire changer la direction du vent, il me semble.
Il y a aussi cet appel du président Biden à l'interdiction des fusils d'assaut aux particuliers.
Oui, tout à fait, Abdurrahman. Vous savez, déjà en 1994, Joe Biden, quand il était lui-même sénateur, il avait participé à l'adoption d'une loi qui interdisait justement ces fusils d'assaut. Mais malheureusement, cette loi n'avait une durée de validité que de 10 ans. Je ne pense pas que le rapport de force puisse permettre son renouvellement.
Et il y a aussi son appel à un meilleur contrôle de ces armes fantômes qu'on voit souvent dans la violence urbaine notamment, n'est-ce pas?
Il qualifie la violence par les armes d'épidémie et dit que c'est une honte internationale pour les États-Unis. En tout cas, au niveau de l'exécutif, à titre de président de la République, il n'a pas les moyens d'inverser la tendance. Il faut nécessairement passer par le pouvoir législatif. Et à ce niveau-là, il y a quasiment peu de chances. Alors, il y a un aspect qui peut être intéressant, c'est qu'enfin, il va y avoir un patron, du moins on espère, un patron de l'agence qui régule les armes à feu. Mais même ça, sa nomination par Biden n'est même pas sûre de passer au Sénat.
D'accord. Et pour terminer, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a reconnu que le gouvernement ne peut pas régler la question de la violence par les armes à feu tout seul. Un programme $1 milliard a été donc annoncé pour les communautés, pour aider les communautés à s'impliquer. Vous pensez que ça peut marcher?
Oui, moi je crois que bon, sur ce terrain-là, je crois qu'il y a peut-être un travail d'éducation, de formation, de sensibilisation au niveau grassroots, comme on dit, au niveau communautaire, et que bon, effectivement, ça pourrait aider.
C'était l'analyste politique René Lake, joint ici à Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.